Cette semaine, dans le balado, on se bat contre le pouvoir, on renoue avec notre père et on se questionne sur notre vie sentimentale. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut!
Alors, deux grosses sorties, deux poids lourds qui devraient attirer, je pense, beaucoup de gens au cinéma, mais très différents l'un de l'autre, évidemment.
J'en connais un, puis je pense que je sais même pas c'est quoi l'autre.
Ben, dans sa niche à lui, je pense.
Est-ce que tu parles d'Emmanuel Mouret?
Non, je parle de l'autre, de Valeurs sentimentales.
Valeurs sentimentales,
ouais,
ok.
Oui, c'est ça.
Ah, ben, je pense que dans sa niche, oui, dans sa niche, le cinéma international, de
ben,
films de Cannes et tout.
Oui,
là.
C'est ça, je pense.
Mais je crois que sur la balance, l'un versus l'autre,
c'est sûr.
Ils sont pas dans la même échelle.
Exact, mais je pense que pour ce que c'est comme produit, je pense qu'il va être très couru. Je pense que c'est un film qui est très attendu, mais avant d'en parler, justement, petit tour d'horizon d'actualité, moi, j'ai relevé quelques petits trucs le fun, dont, écoute, je pense que tu te pourras plus, peut-être, je sais pas. Les Teenage Mutant Ninja Turtles.
Mais en animation?
Non, okay. Live action.
Oh, je sais
parce
pas.
Parce qu'on sait qu'on...
Je les aime beaucoup en animation. Puis il y en a un qui sort en août prochain. Là.
Non, c'est 27 même, 27. Qui est la suite
oh,
là, de la,
ouais.
La refonte de Seth Rogen et tout ça. Mais Paramount avait entre-temps annoncé qu'il voulait faire comme une version animée 18 ans et plus. Sur, je pense que c'était Ronin, là, la mini-série de bande dessinée.
Ouais, ouais,
c'est
ouais,
ça okay. Qui était vraiment plus graphique pour adultes. Finalement, ce projet-là semble avoir été scrappé depuis le rachat de Paramount par Skydance. Et on a confié les clés de la franchise au producteur de Sonic.
Okay.
Vu qu'ils connaissent évidemment un grand succès avec leur série de films. Alors, ouais, fait que nouveau live action.
Mais pour
en préparation,
toute la famille.
Pour
hein?
toute la famille, oui, ouais. C'est ça, tout à fait. Qui va venir concurrencer en fait celle de Sanmi. Moi, je trouve ça toujours drôle quand même. Mais bon, Sony le font avec Spider-Man avec succès quand même.
Ouais.
Alterner film et animation. Fait que on sait que la dernière mouture, c'était Bruckheimer. Hein. Je pense qu'il avait produit ça. Les,
ouais,
il avait
ouais,
fait
c'était,
deux.
C'était,
assez laid.
Voyons. Mais Bruckheimer, c'est le producteur, mais
c'était
le réal, c'est.
C'était quel réal?
Explosion B. Michael Bay.
Ah, Michael Bay.
C'est
ouais.
Son projet à lui. Okay, voilà. Mais je sais pas si c'était Bruckheimer qui était.
Non, je pense que c'est Michael Bay, t'as raison.
Directement
c'est moi qui ai confus
B,
parce qu'ils ont travaillé souvent ensemble, mais ouais, ouais c'était Michael Bay. Donc, fait que voilà. Fait que je pense que les tortues vont être encore très présentes.
Puis d'ailleurs, dans le gros n'importe quoi de ceux de Michael Bay, ils étaient quand même très laides, les tortues.
Ah oui,
là,
le design n'était pas super.
Ouais, fait que, c'est le premier défi à relever, je pense. Mais là, on dirait que vu que c'est producteur de Sonic, mais là je pense tout de suite à Sonic qui est en animation avec le reste. Fait que là j'imagine ouais. Qu'ils vont pas mettre des tortues en animation. Là. Ils vont être.
Ils vont je sais pas. On n'a pas de plus d'informations à ce niveau-là.
Ouais.
C'est sûr que.
Ah, peut-être, mais ça serait mieux quand même des costumes ou
ouais.
Quelque chose, là, comme
c'est
les premiers films. Là. L'incrustation serait meilleure.
Ouais, la technologie est plus avancée aujourd'hui, fait qu'on pourrait faire des choses vraiment hot, je
ouais,
pense.
Ou un peu à les Marvel, là, tu au moins
hybride un peu.
Ouais,
là,
ouais c'est ça, là, que tu rajoutes un peu, t'embellis un
ou
peu.
Ou Prédateur, en... justement, qu'on a pu voir
ouais, c'est vrai.
Récemment.
Ouais.
Fait que,
on
donc,
peut toujours voir récemment. En
ouais,
fait. C'est pas parce que nous, on n'en parle pas cette semaine. Il est encore à l'affiche.
Donc, voilà pour les Tortues Ninja. Sinon, écoute, gros phénomène. Toi, ta fille est un peu trop jeune, mais.
Ouais, consomme rien.
Je pense qu'avoir peut-être 5, 6, 7 ans, peut-être qu'elle aurait tombé dans cette demande-là, les laboubou, les fameuses.
Je sais pas, tu sais
ouais, c'est les fameuses poupées, peluches, qui ressemblent un peu les Ugly Dolls, qui fait peut-être
okay.
Penser à ça, là, un mélange de ça, puis autre chose, qui vient de Chine. Ça fait quand même quelques années que c'était sorti, mais depuis un an, là, ça, il y a comme un crazy réseau social.
C'est quoi là?
L-A-B-U-B-U.
B-U-B-U,
la ouais. La boubouette. Fait que c'est évidemment, ils en ont manqué ici en Amérique quand la craze est arrivée. Je pense que c'était au printemps, au début de l'été.
OK,
là.
C'est récent.
Oui, ouais, c'est vraiment de cette année. Puis là, il y avait toutes sortes de contrefaçons. Les
fait
gens
le...
exploitaient ça. Fait que Sony Pictures a acheté les droits pour un film de La Boubou. Pas de détails encore donnés. En fait, ils ont juste acquis les droits. Il n'y a pas de scénario ou rien de prêt. Mais ce qui est le danger de tout ça, ces fades-là, c'est que moi, je pense que ça va tomber assez vite. Je pense pas que ça va perdurer dans le temps. Fait que s'ils prennent 2-3 ans à faire un film, je sais pas à quel point que c'est gagnant pour eux.
Effectivement. Mais en même temps, si le film arrive dans 8 mois, c'est qu'il va avoir été, il va avoir tourné coin rond pas mal.
Ouais,
là,
c'est l'autre danger aussi, effectivement.
Fait quoi, une espèce de fenêtre de, comme tu dis, dans 2 ans, mettons. Faudrait qu'il soit là en 27, là.
Maximum, idéalement,
mais
peut-être Noël 26, je sais pas.
J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais Ugly Doll, il me semble aussi que le film est arrivé un peu tard sur le mouvement, puis que ça n'a pas autant marché.
Non, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. Fait que voilà pour les fans de La Boubou. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ont de jeunes enfants, vous êtes sûrement au courant du phénomène.
Gardez-les sur le hype train 2-3 ans jusqu'à temps qu'il y ait le film. Surtout si tu dis si elle a 7 ans, quand t'es rendu à 10 ans, et là, est-ce que tu peux encore? Il y a eu un peu le phénomène avec Gaby Shaw. Il a eu un succès bien, bien correct, là, bien décent. Là. On s'entend que tous les films famille ne font pas 400 millions comme Zootopia va faire. Là. C'est normal. Ben,
surtout
là.
Quand tu as une série qui roule déjà en streaming gratuitement.
Ben, pas gratuitement, mais
ben, je veux dire,
avec abonnement. C'est comme, mais je pense que la série, sauf erreur, ils n'en font plus. Je pense que c'est fini, mais ça roule encore.
Okay.
Mais tu sais, tu as un public vraiment comme 4 à 7 ans. Fait que déjà, ceux qui ont commencé à le consommer il y a 5 ans, ils commencent à être un peu trop vieux. Fait que t'es toujours sur « faut que j'aille du monde constamment », comme un peu... Ben, à l'inverse, le film de Dora avait pris le pari de dire « vous avez écouté Dora à 7 ans, vous avez maintenant 12-13 ans, je pense que ce film-là va vous plaire parce qu'il est familial, mais il est un petit peu plus pré-ado. » Fait que c'est un peu ça. Fait que si tu restes toujours dans ta table, mais tu sais, Pat Patrouille réussit. Il y a des émissions, des spin-offs, des films, puis ils sont toujours pour le même public, puis ça fonctionne à fond parce que la propriété intellectuelle, les œuvres se consomment toujours par des enfants de 3 à 7 ans.
Et ça demeure toujours très populaire.
Puis il va y avoir un autre film cet été. Alors, ça continue.
Revenons à Paramount, j'aurais pu enchaîner, mais une autre de leurs propriétés, une autre de leurs franchises qui ont beaucoup de misère à relancer, c'est Star Trek. Ça va faire déjà bientôt 10 ans qu'il y a eu le dernier film. Puis au cours des années, on a même évoqué aussi dans le balado, il y a eu toutes sortes de tentatives
de Tarantino
qui voulait le faire, qui était hors continuité de ce qu'on nous avait amené. On préparait même un quatrième film avec Chris Pine, Zachary Quinto, toute cette mouture-là. Finalement, on semble rescraper tout ça et ça va être Jonathan Goldstein puis John Francis Daly qui sont derrière Donjons et Dragons, qui ont été mandatés de repartir ça. Donc, ils vont scénariser et réaliser... Si ça voit le jour, je demeure encore sceptique. Mais donc, une nouvelle itération de Star Trek.
Tu penses que ça verra pas le jour?
Écoute, depuis 10 ans, ils ont tellement eu d'occasions, puis il y a d'autres personnes qui ont essayé.
À ton avis, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est-tu que ça appartient à des grands décideurs qui sont comme « non, c'est sacré, on touche pas à ça? »
Je pense qu'ils n'arrivent juste pas à se décider sur l'angle, à prendre la bonne façon. Parce qu'on sait que le dernier film, quand même, avec Pine et Quinto et compagnie, avait plus ou moins fonctionné, considérant les budgets. Star Trek Beyond, c'est ça,
Beyond Meat.
C'est ça. Donc, je pense que c'est juste ça. Je pense qu'ils n'arrivent pas à être satisfaits complètement de ce qu'ils leur ont soumis, proposé comme scénario. Puis là, le temps passe. Puis là, espérons que ça va être la bonne. Moi, je suis quand même fan. Je suis plus fan des films, en fait, que les séries de télé. J'ai écouté aucune des séries télé sauf l'original à un moment donné parce que j'étais curieux de voir ça, mais puis il y a juste 3 saisons, fait que c'est pas énorme. Mais fait que. En tout cas, suivre donc pour les Trekkies.
Ouais, c'est ça.
J'ai l'impression que avec justement l'arrivée de Skydance, ils doivent tout éplucher le catalogue là, de leur franchise. Là, puis là, leur dire OK, ça, il nous faut ça dans les prochaines années parce que c'est payant. Puis
Comme tu dis, si ça a changé de propriétaire, là, peut-être qu'on va donner l'aval pour dire. Tu sais, quand ils l'avaient lancé avec. J.J. Abrams et tout, c'était ça. C'était comme un nouveau pitch, plus aventure, plus pour tous, ça a bien fonctionné.
Et voilà, fait que voilà,
C'est ça, puis en général, je pense que les gens, tu sais, certaines franchises, certains titres vont faire des chiffres fous de 800 millions, plus d'un milliard mondialement. Mais je pense pas que c'est réaliste de toujours viser ça pour chaque projet.
Ben, en fait, Star Trek l'a jamais atteint.
Non, c'est ça. Mais je sais pas s'il visait puis qu'il faisait des budgets de 280 millions puis que c'est un petit peu moins quand même, mais...
Ben, c'est sûr que les...
Faut que tu aies le moyen de tes ambitions, mais il faut que tu sois conscient que tu vises plus un 500-600 millions world.
Et encore, je pense que ça a été l'exception, le premier de J.J. Abrams. Je pense de mémoire, il avait comme peut-être un 500, puis ça a été comme un peu la surprise. Là, on a mis plus d'argent dans le deuxième, qui avait un peu moins, puis le troisième, même chose. Mais tu sais, Star Trek, ça a été quand même toujours un peu niche. Il n'y a jamais eu, à part un ou deux.
C'est très science-fiction.
Ça. Fait que ça n'a jamais réussi à exploser comme Star Wars, effectivement. Puis je pense qu'ils ont essayé de rebrander ça avec J.J. Abrams à l'époque. Comme tu l'as dit, c'était super le fun. C'était une nouvelle version de Star Trek, mais... ça n'a pas perduré, malheureusement. Bonne annonce. Écoute, Disney qui place leur pion après le teaser de Toy Story 5 la semaine dernière. Un petit teaser d'un autre film d'été qui devrait cartonner à fond, c'est la live action de Moana.
Oui, qui s'appelle Moana, tout simplement. Un petit teaser d'une minute, on voit la jeune fille, l'univers, les couleurs, sous l'air des chansons connues qui m'échappent. On voit pas Dwayne Johnson, mm-hmm. on voit juste de dos son personnage de Maui qui saute dans le vide, mais je pense qu'on se garde son image et plus pour la prochaine bande-annonce qui sera sûrement au mois de mars, j'imagine, avec la sortie de Hoppers, logiquement, sur leur prochain film, etc.
Ouais, donc ça va sortir vas-y.
10 juillet.
10 juillet, oui.
Puis, ouais, ça va être un gros été, là, comme on disait. Là, c'est juin pour Toy Story. Puis, il me semble qu'ils ont quelque chose en mai aussi, là, qu'on disait. Mais,
Je suis plus sûr, non. Ben, peut-être, mais pas. Il n'y a pas de Marvel. Ah, il y a Star Wars. Exact.
Ouais, c'est ça. Quand exact. Même. Fait gros, que gros année Disney. Puis, mais je le sais pas, moi, si ça va. Tu sais, parce que Moana 1 est un super hit. Moana 2 nous a prouvé, il a encore fait full d'argent, même si tout le monde disait « Ouais, c'était quand même une série télé remarchée en film, puis c'est un peu plus faible, mais ça a quand même extrêmement bien fonctionné, là, de Thanksgiving jusqu'après le temps des fêtes. » Mais il y a eu des échecs aussi de prise de vue réelle. Mais Lilo et Stitch a super bien marché.
Exact. Je pense que quand tu as la bonne...
C'est vrai qu'il n'y aura pas de polémique autour du film, comme on a vu avec Blanche La Belle et la Bête, puis Blanche-Neige. Ah ouais, c'est ça. Je voulais dire.
Ouais. Ouais. Parce que la bête a bien fonctionné. Ben, tu sais, moi, je pense que Moana
c'était petite sirène, l'autre.
Ouais, c'est ça. Je pense que Disney vont connaître plus de succès avec les titres récents de leur catalogue que de faire un Cendrillon, que de faire un Blanche-Neige qui date d'une autre époque, déjà dans l'histoire, dans le ton.
Ouais, puis dès que c'est Damn If You Do, Damn If You Don't, parce que si tu actualise l'histoire, les gens crient « Ma Blanche-Neige n'était pas de même. » Puis si tu la laisses comme aller, ben les gens vont dire « Ben là, ça n'a pas de bon sens, là, les nains et tout. »
Alors
tout,
que si on reste dans les 20-25 dernières années, tu as un public qui est plus prêt, je pense, à accepter ça. Moana fait partie des titres très préférés, je pense, un des plus écoutés sur le site de Disney+. Visuellement, ça a l'air être quand même très bien fait, même ça a l'air un peu du plan par plan. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que c'est le réalisateur qui s'appelle Thomas Cale, qui est le metteur en scène de Hamilton, qui est la pièce associée de Lin-Manuel Miranda, qui a fait les chansons d'ailleurs pour Moana à l'époque. Fait que déjà là, je pense que ça va être assez intéressant. Puis à noter que pour Moana, ben, la jeune comédienne, c'est son premier film, Catherine Lagahaya. Je m'excuse, je mal prononce son nom, mais qui a l'air très sympathique comme pré-ado.
Ouais, c'est sûr que quand tu veux un ado de 12 ans, c'est souvent une première expérience.
Ouais, c'est ça. Fait que, à découvrir en juillet, mais moi, je suis prêt à mettre un gros 2, que ça doit être un des gros succès de l'année.
Ben,
puis les tunes sont tellement entraînantes, déjà celles que tu as dit dans le film. Là.
Exact. Fait que...
Il y a ça aussi un peu, je pense.
Ah, ouais, mais ton argumentaire est bon versus...
Blanche-Neige.
Je pense qu'il y avait, après les insuccès de Blanche-Neige, justement, ils ont tiré la plug sur des Bambi puis une couple de vieux comme ça qu'ils voulaient faire. Puis, comme tu as raison, ils doivent se concentrer sur du plus récent.
Et le prochain sera Réponse, finalement, qu'on a remis sur les rails, parce qu'à un moment donné, on avait comme justement mis pause et tout ça, mais Réponse serait le prochain. Sinon, Lionsgate, qui ont sorti une bande-annonce très précoce, parce que c'est dans un an. Mais
c'est un an jour pour jour, ils l'ont sorti le 20 novembre.
Fait qu'on veut créer un petit buzz pour le nouveau Hunger Games Sunrise of the Reaping.
Sunrise on the Reaping.
Oh, on the Reaping.
Ouais, mais j'ai peu de choses à dire dessus. J'ai remarqué... Attends, j'ai oublié toute Jessie...
Gros casting quand même, j'ai noté ça. T'as Elle Fanning qui joue Effie, donc c'était le personnage de Elizabeth Banks dans la trilogie originale, qui la joue plus jeune. Parce que là, dans le fond,
on est au 50e
jeu, donc 24 ans avant le premier film d'Hunger Games, où on suit le jeune Haymitch Balado, maintenant, jeune adulte. La participation de Haymitch qui était jouée par Woody Harrelson.
Très Midsommar comme jeu, là.
Ouais,
très floral, même Stonehenge un peu. Il a l'air d'avoir un volcan puis tout.
Ça a l'air très coloré dans la campagne et tout ça. Fait que ça a l'air intéressant. Donc, on retrouve Jesse Plemons, Ralph Fiennes qui joue le président Snow.
Okay.
Qui était joué par Donald Sutherland. McKenna Grace, on retrouve Ben Wang, qui était de Karate Kid et de Long Walk. Maya Hawke aussi. Et c'est Joseph Zada, que je connais pas, qui joue le jeune Haymitch. Mais justement, ça a l'air très coloré. Je trouve ça le fun qu'on nous amène dans d'autres zones. Moi, j'avais beaucoup aimé Ballad of the Song of the Snake. Qui avait été une belle surprise. Fait que je pense que ça devrait être en continuité parce que c'est Francis Lawrence, encore une fois, qui réalise, qui a dédié sa vie à Hunger Games. Donc, ce sera son cinquième film. Parce qu'il a fait le 2, il a fait le 3 qui était en deux parties, puis l'autre fait quand même. Fait que voilà, donc dans Hunger Games, tu peux aller voir ça. Je pense que ça aussi, ça va être un bon succès l'an prochain.
Bien sûr.
Alors, allons-y. Restons dans les adaptations pour la première sortie de la semaine. La fin du diptyque Wicked for Good de John M. Chu.
Oui, Wicked pour de bon au Québec. On retrouve les mêmes personnes que le premier qui était sorti il y a un an, jour pour jour. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeo et le bon Jeff Goldblum. Mm.
L'excentrique Jeff Goldblum.
L'excentrique, oui. De terre à terre. Non, qu'est-ce qui se passe? Faut se souvenir, ça finissait que on réalisait que Elphaba se faisait ostraciser un peu là, et là elle se sauvait, on l'accuse d'être la méchante parce qu'elle est pas d'accord avec ce qui se trame
dans le monde de Oz
avec justement le fameux magicien d'Oz et Madame Morrible, donc probablement Madame Morrible jouée par Michelle Yeoh. Fait que comme justement cette dite Madame Morrible fait plein de propagande pour dépeindre la Elphaba comme la méchante sorcière de l'Ouest, celle-ci Elphaba va tenter de révéler l'absence des réels pouvoirs du magicien d'Oz. Mais face à cette situation, Morrible, qui est complice de ce dernier, va provoquer une tornade qui va détruire la petite maison du Kansas et causer la mort de la sœur de Elphaba. Et au même moment, la jeune Dorothée va émerger des ruines et s'approprier les chaussures magiques rouges.
Elle va prendre les souliers.
Puis, Elphaba, est pas contente, fait qu'elle va la pourchasser, quasiment le film Le Magicien d'Oz, un peu. Ça doit être un genre de crossover. Là, vous entendez mon ton de gars qui a pas vu le film.
Je peux prendre le relais,
ouais,
si tu veux.
Ouais, vas-y, parce que...
Et il faut dire, au même moment, donc, autant on assiste finalement à l'ascension aussi de Glinda, la bonne, jouée par Ariana Grande, donc autant dans l'imaginaire collectif du monde d'Oz... Elphaba devient la méchante sorcière, Glinda devient la bonne. Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant, on se demandait d'ailleurs, parce que déjà le premier film, il faut dire Wicked, est une adaptation d'une comédie musicale qui se déroule dans le monde du Magicien d'Oz, qui est un prequel. En fait, on raconte la genèse de ce personnage-là très marquant du cinéma américain, la méchante sorcière de l'Ouest. Et puis, on avait coupé ça en deux films. Le premier était quand même un 2h30, 2h40, qui couvrait beaucoup de territoire quand même de la comédie musicale. Et finalement, je suis allé lire un petit peu, puis ça suit quand même pas mal beat par beat la comédie musicale. C'est qu'on a quand même rajouté beaucoup de chair alentour, mais la comédie musicale, le premier acte s'est terminé exactement où se termine le premier film. Et même chose pour la deuxième partie, on reprend les mêmes plot points. Donc écoute, ceux qui ont adoré Wicked, la première partie, vous ne serez pas déçus. Vraiment une conclusion très satisfaisante. Encore le tout est de qualité. Visuellement, c'est magnifique. Musicalement, c'est super le fun. Au niveau des jeux, des comédiens, ils sont incroyables encore, le duo. Je pense que ça avait été comme un pari quand même audacieux de prendre Cynthia Erivo, qui n'était pas connue. Ariana Grande est connue pour sa chanson, mais pas nécessairement pour ses qualités de comédienne, d'actrice. Et de les réunir dans un film à aussi gros budget sur deux films. Mais John Chu, écoute, il a eu la main heureuse parce que déjà dans le premier, ils étaient incroyables. Et là, les deux crèvent l'écran. Mais là, je dirais, c'est plus Ariana Grande, son personnage Glinda, qui prend la place principale du récit. Puis c'est ce qui est le fun, ça vient vraiment balancer. Dans la première partie, on est plus sur Elphaba, là, sur Glinda. Et évidemment, on assiste à une sorte de tragédie parce que leur amitié se défait selon leur position qu'ils vont prendre et tout ça.
Devient impossible.
Deviennent en opposition, oui.
C'est ça, alors qu'ils commencent en opposition parce que les castes. Là,
oui, les classes sociales.
Les classes sociales là, découvrent des affinités. Ouais. Et là, finalement, réalise que leurs positions politiques sont différentes.
Oui, puis et psychologiques aussi, parce qu'on comprend le besoin de Glinda aussi. Ben, c'est ça, c'est besoin de son personnage, sans trop en nommer. Mais, fait que non, niveau scénaristique, super intéressant. Fait que bref.
Il est un petit peu plus court, là, 2h20.
Oui, c'est ça, mais écoute.
Ce qui, de nos jours, est un film très court.
C'est ça. Tu sais, j'ai vu quelques critiques passer, que c'était un peu long, puis tout ça, mais honnêtement, moi, j'ai pas vu le temps passer. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Difficile de comparer. Est-ce que c'est meilleur au premier? Parce que dans le fond, c'est un film en deux parties. C'est un tout. T'sais. Puis moi, j'ai écouté le 1 avant d'aller voir le 2. Je l'ai écouté hier dans la journée. Fait que c'était vraiment frais dans ma mémoire. Fait que c'est comme si j'ai un entracte d'une coupe d'heure. Puis après ça, je suis allé le voir.
Ouais,
fait que, puis mais ça marche parfaitement. Puis j'étais curieux de voir justement comment on intégrait la partie du Magicien d'Oz, qui était aussi dans la comédie musicale. Puis ça, j'étais pas certain, parce que j'ai jamais vu. Mais effectivement, donc on évoque Dorothée puis tous les trois autres personnages là, mythiques dans la comédie musicale. Donc évidemment, dans le film, j'en dirai pas trop, mais je vais vous garder la surprise, mais c'est pas tout à fait le rôle auquel je m'attendais. Mais ça se dit c'est pas négativement. Mais je pense que le tour de force de Wicked, c'est d'avoir pris un film iconique comme Le Magicien d'Oz et de nous flipper ça. Après ça, quand on va réécouter le film, on ne verra plus jamais de la même façon. Puis là, c'est comme si on revoit des fois le film mais des points de vue de Glinda puis d'Elphaba qu'on voit pas nécessairement dans le film. T'sais. Ils sont mais...
Un peu behind the scenes.
Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Back to the Future 2, où ils nous renvoyaient des images du premier, des scènes du premier film.
Ouais.
Et là, c'était du point de vue du nouveau Marty dans le passé et tout ça. Fait qu'il y a un peu ce côté-là qui un peu ce côté-là qui est vraiment le fun. Fait que moi, j'ai passé un bon moment. Puis là, j'ai vu en plus avec une foule, ce qui est plus rare quand même pour nous autres. Fait que le pouls était très bon, les gens réagissaient beaucoup et tout ça. Fait que je pense que ça va être un très bon crowd pleaser. J'ai l'impression que ça va connaître un aussi grand succès. Là. Des fois, une suite, c'est dur de répéter sur le long terme. Mais...
C'est parce qu'il y a toujours un effet, et là, ça veut dire aussi. Prends-moi, par exemple, j'ai vu le premier. Moi, je n'ai pas vraiment accroché à tout ça. Là. Je reconnais plein de qualités au film. C'est juste que moi, ça m'a pas parlé. Fait que j'ai laissé passer pour le deuxième, vu que toi, tu y allais bien volontiers.
Ouais.
Fait que ça va être ça pour plusieurs là, qui vont avoir vu le premier. Puis en fait, que, c'est pas tout à fait
exact,
pour moi.
Est-ce que les fans mordus vont le réécouter autant de fois qu'ils sont allés peut-être la première fois au cinéma? Fait que,
je pense que ce qui va l'aider d'une certaine façon, c'est pas accidentel, c'est la période. Ça se peut que le week-end soit pas si fort que ce qu'ils attendent, mais que les gens savent déjà. L'an dernier, j'étais allé le voir dans le temps des fêtes.
Ouais.
Fait que je vais faire ça. T'sais. Fait que même s'il sort là, ils vont attendre 4 semaines avant d'être vraiment en congé des fêtes puis d'y aller. Fait que c'est un film que ça se peut qu'il soit pas 180 millions ce week-end, mais une chute de 75%, mais plutôt partir puis se maintenir un petit peu plus puis vraiment performer aussi dans les fêtes puis là casser en janvier. Là.
Exact.
Ça se peut très bien que ça fasse ça, ce genre de sortie. Alors que je prends Dune, par exemple, qui lui était sorti comme en octobre. Les deux étaient sortis en octobre. En tout cas, le premier était sorti en octobre, le deuxième en mars, différemment, comme 18 mois plus tard. Puis le premier, ça avait été modeste, puis il avait roulé vraiment longtemps, vraiment, vraiment longtemps. Je pense que j'avais déjà discuté de ça, mais le deuxième est parti très fort parce que là, il y en a qui ne savaient pas c'était quoi, et ça avait pris du temps. Finalement, je l'ai écouté ou je ne l'ai pas vu au cinéma, puis c'est vraiment bon, je veux voir la suite. Fait qu'il est parti super fort. Ultimement, il a fait plus d'argent, mais il a été moins longtemps à l'affiche que le premier. À un moment donné, c'était juste, les gens sont venus plus tôt, plus vite, puis là, après quelques semaines, je ne sais pas, 8-10 semaines, il n'y a plus rien à faire, alors que l'autre avait joué 15, 16, 20 semaines. Il y a un certain cinéma l'ouvre en octobre, puis il jouait dans les fêtes en vue des Oscars, en vue de tout, tandis que là, l'autre, quand il sort en mars, tu ne le garderas pas jusqu'aux Oscars l'année d'après.
Dès qu'il arrive le mois de mai aussi, puis toute la calendrier de sortie.
Exact, fait avril, exactement. T'sais.
Mais en tout cas, bien curieux de voir ça. Il faut rappeler quand même que le premier avait fait 400 millions au box-office américain.
Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il
vise surprise, honnêtement.
Un petit peu moins, mais rien de... Il avait-tu fait tu sais, à peu près 400 ronds ou genre?
Je pense que c'était 414, 415. Okay.
Je pense qu'ils visent le 380, fin 300 75, exactement. Là, ça serait
très bon.
Plus ça, là.
Ouais.
400 serait l'objectif. On est super contents au-delà de ça, mais peut-être modestement, ils sont plus dans le 375.
Fait que finalement, parce que je pense qu'il y avait de quoi 600-700 à travers le monde. Il y avait un petit peu moins à l'international, puis c'est un phénomène plus très américain, mais pour deux films finalement qui étaient tournés ensemble. Fait que c'est sûr que t'économises, t'as des économies d'échelle.
Ouais. C'est 5h30 de film, mais c'est, ouais, c'est ça. Plutôt que de redonner tout le monde, remonter les décors, refaire. T'sais.
Fait que mettons que tu mets un 200 quelques millions plus promotion, un 300 millions, puis tu fais 1,23 milliards. C'est un bon retour sur investissement.
C'est ça. Alors, pour moi, c'est plus que 100 millions la promo. Ça doit être 100 millions par film.
Ouais, peut-être. Donc, voilà pour Wicked for Good.
OK, y a-t-il d'autres choses?
Ben, y a d'autres choses dans le plus, dans un peu plus lourd, un peu dans le plus complexe. Alors que Wicked for Good, on est quand même dans les bons sentiments. Alors, on va avec Sentimental Value de Joachim Trier. T'as vu mon...
Oui, mon mais switch. J'ai complètement oublié de noter les choses pour ça. Parce que...
Parce qu'il était sorti la semaine
c'est
dernière.
C'est ça, parce qu'à Montréal, il est sorti la semaine passée. Puis c'est bête parce que c'est le film le plus récent que j'ai écouté. OK, alors Valeur sentimentale, le nouveau film de Joachim Trier, Joachim, je sais pas. Je sais jamais comment on dit ce nom-là, encore moins pour un Norvégien, comment il prononce. Joachim,
ça doit
Joachim
être
Trier.
À l'anglophone.
Co-scénarisé avec, j'imagine, son ami Eskil Vogt. Mais on retrouve Renate Reinsve, qui était dans son célèbre... ben en fait, il était... dans toute son espèce de triptyque sur Oslo, ou au moins deux des trois films.
Il a fait son, était dans son premier Oslo, 31, ouais, c'est ça. Que j'ai pas vu, mais que je veux, faut j'écoute.
Le fameux The Worst Person in the World, Julie en 12 chapitres au Québec, qui, je crois que c'était en 2021, nous a vraiment fait connaître Trier plus largement.
Ouais.
Mais aussi au générique, Stellan Skarsgård, cette fois, et Ellie Fanning. Elle?
Okay. Ouais, c'est elle.
C'est elle, OK. C'est comme français un peu. Hein? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe ici? Valeur sentimentale, c'est très bien parce que c'est un film qui est un peu aussi sur les dessous, l'arrière-scène du cinéma. Agnès et Nora sont deux sœurs qui vivent bien ensemble. L'une est comédienne de théâtre, Nora, alors que Agnès est
historienne.
Ouais, c'est ça. Et voient leur père débarquer après de longues années d'absence alors que leur mère vient de mourir. Ils vont devoir vendre la maison familiale, etc. Et lui, c'est un réalisateur de renom là, qui fait ses films, qui joue justement à Cannes puis dans des festivals internationaux. Il fait des films norvégiens, là, justement. Et il va proposer à Nora, qui est comédienne, de jouer dans son prochain film inspiré par sa propre mère à lui, donc la grand-mère de Nora et tout. Mais comme leur relation est très conflictuelle, ben, elle refuse. Elle veut pas travailler avec lui, elle lit même pas le scénario, rien, elle dit non, c'est inacceptable. Fait que il va se retourner vers une actrice très en vogue, donc jouée par Elle Fanning, qui la jeune star hollywoodienne à qui va proposer le film. Fait que au fil que le film Valeur sentimentale se développe, on voit la genèse du film, sont beaucoup plus en pré-production, en répétition. Les deux sœurs, comment elles naviguent ensemble, on voit des souvenirs du passé. Il y a un côté aussi très... comment ça s'appelait dans le film avec Tom Hanks là, qui est d'un plan fixe dans la même maison tout le temps. Here, là, c'est ça. Ben, il y a un peu ce côté-là qu'on voit la maison parce que pendant plusieurs générations, là, les filles n'habitent plus dedans, là, mais ils habitaient là, donc lui était là, ses parents, ses grands-parents, fait qu'est-ce qui s'est passé, des histoires positives ou négatives. Fait que c'est un film, c'est un drame lumineux, je dirais, sur des liens familiaux d'artistes et de familles... mais pas complètement brisé, mais pas famille modèle non plus. Là,
genre, en froid, effectivement.
Ouais, c'est ça. C'est plus en froid. Il n'y a personne qui lance des assiettes sur le mur et qui se poignarde là-dedans. Là. Fait que c'est du beau drame humain avec des super beaux talents. Et ça a remporté le prix du jury à Cannes, c'est ça? C'est qui est un peu le Grand Prix.
Le Grand Prix,
Grand Prix, qui est un peu la deuxième position.
Place, exact.
Après la Palme d'Or, qui était à un simple accident.
Mm.
Fait que... Puis, c'est-tu bon?
Ben, moi, je te lance la question parce que je sais que tu avais capoté sur The Worst Person in the World.
Ben, c'est aussi parce que je suis ouvertement en amour avec Renate Reinsve.
Oui, c'est ton plus one.
Mon plus one, oui, c'est ça. Faudrait que j'en parle à ma blonde. Mais,
donc, toi, par rapport à tes attentes...
C'est ça. Moi, je trouve que tous les films qui s'en viennent dans les prochaines semaines, il y a... L'agent secret aussi qui sort bientôt, qui est le représentant du Brésil. Il y a Sirat qui s'en vient peut-être, qui était l'autre vu. Ouais. Je vois, il y en a plein. Là. C'est toujours la période, là, novembre-décembre. Il y a aussi le parc Chan-wook. Il y a plein d'affaires comme ça. Il y en a qui sont plus un petit peu flyés. Mais quand c'est comme un drame humain, comme un simple accident, je trouve qu'une critique dithyrambique de genre « Wow, 5 étoiles, pitchez-vous dans les murs », c'est à double tranche, hein, parce que la barre est trop haute pour le film. Fait que c'est un peu ça mon avertissement, c'est comme ça va pas changer le cinéma puis tout révolutionner, tu sais. Ou juste on pense en Palme d'Or, je discutais avec des collègues ce matin puis j'étais comme Anatomie d'une chute, ça a vraiment créé un buzz, ça a joué longtemps au cinéma, plein de gens ont découvert ce film-là, ont vraiment aimé ça. Mais chaque Palme d'Or, puis chaque année, il n'y aura pas un Anatomie d'une chute. Là. Comme un Avatar pour le blockbuster ou quelque chose comme ça, ou un Wicked. T'sais, chaque comédie musicale ne va pas être un Wicked. Là, t'sais. Fait que c'est le même principe. Fait que moi, je n'ai que du positif à dire du film. Pour vrai, j'ai vraiment rien de négatif. C'est 2h15, c'est très raisonnable comme longueur. On approfondit les personnages, on se promène. On est plus sur Nora, après on va plus sur leur père. Finalement, la dernière partie, on est plus sur Agnès, sur l'autre sœur qui, elle aussi, avait joué dans un film de son père quand elle était enfant. Puis maintenant, son père veut que son enfant à elle joue dans son film. Fait que c'est quoi son appréhension par rapport à ça? Fait que, puis c'est pas, après ça, c'est pas tant un film de derrière la caméra puis tout ça, parce qu'on est juste plus dans la pré-production, les répétitions, ces choses-là. On se rend pas vraiment dans le tournage du film. Fait que ces relations-là, puis ce qui est bien fait, puis humain, c'est que il y a quand même beaucoup de non-dits. T'sais. Les personnes vont pas s'asseoir devant un café puis dire, tu sais, quand j'avais 8 ans, puis là, je t'attendais pour ma fête, puis tu m'as pas acheté le bon cadeau, puis t'es pas venu, ben ça, c'est une déchirure que j'ai jusqu'au... T'sais, ils vont pas dire ça parce que ça serait trop évident comme un scénario de 101 mélodramatique. T'sais.
En même temps, c'est très scandinavien parce que c'est comme la réputation, c'est pas des gens qui s'ouvrent facilement.
Ah, okay. Ben,
c'est des gens très refermés, beaucoup de non-dits. Bergman a fait une carrière là-dessus. Fait que, ouais.
Je savais pas que c'était généralisé. Ouais. C'est ça. Fait que moi, j'adore les interprétations. Je trouve ça très intéressant où le scénario va. Il y a quelque chose de rafraîchissant, tu sais, on peut dire, hey, c'est loin de nous, ça, des acteurs puis des artistes puis tout, mais en même temps, c'est fascinant. Le personnage d'Elle Fanning aussi, qui, parce qu'elle est entre les deux, je pense qu'elle a fait des films plus populaires, elle a fait des drames qui ont été plus des échecs, ce qui, sans rappeler, c'est clairement pas l'inspiration, mais en ce moment, c'est Sydney Sweeney qui vient de faire quelques hits avec des comédies, des films grand public, fait un film plus introspectif. Je parle de Christie ici. Le film est bien, là, ça va, mais complètement un échec commercial puis tout. Fait que c'est drôle. Dans l'air du temps, il y a ça, mais elle veut pas une émule parce qu'elle joue pas du tout de la même manière et tout. Je la sens plus comme une genre d'Emma Stone, là, mais dans ses débuts. Là, mais maintenant, Emma Stone est bien établie. Là. Fait que, tu sais, il y a des critiques à son endroit. Puis aussi, son film va en financement, mais avec Netflix. Fait que là, il y a quelques pieds de nez que probablement que Joachim Trier lui-même met de genre, le journaliste pose la question, le film va-tu jouer en salle? Puis là, le réalisateur de 80 ans, il est comme, ben, c'est sûr qu'il va jouer en salle, c'est que tu veux qu'il joue? Puis là, l'autre est comme, on s'en reparle. T'es comme, ok, ouais, il y a ça qui se passe là, dans le cinéma. Il veut retravailler, il a toujours travaillé avec le même monde, ça fait comme 15 ans qu'il n'a pas fait de film. Là, il veut retourner, oups. Finalement,
son monde sont vieillissants,
ouais, sont peut-être plus, ils ont peut-être plus l'œil du tigre là, pour bien travailler avec lui et peut-être devoir... Puis tu sais, lui, on comprend que c'est ça. Il a eu des enfants, il s'est séparé d'avec sa femme. C'est un solitaire. C'est aussi quelqu'un qui est dans l'énergie puis dans son projet du moment. Fait que sa vision de prendre soin des gens n'est pas la même que les filles. Fait que les filles sont comme, tu sais, tu nous as abandonnés, t'es pas là pour nous. Puis t'es comme, ben, à un moment donné, j'étais là pendant 2 mois puis c'était le fun. Puis après, je suis parti. Puis... c'est bien correct, là. Tu sais, trouve ton affection ailleurs. Fait que ça crée des drôles de relations parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes l'une personne envers l'autre. Mais t'es un adulte, tu peux pas exiger qu'un enfant de 8 ans ait la même compréhension de genre « utilisons-nous pendant que je suis là, puis après... » Ah, fait que bref, moi, je trouve ça super, super bien, mais après ça, si tout ce que je viens de dire depuis 5 minutes vous laisse de glace, ben là, c'est pas voir le film qui va changer ça. C'est ça mon... Tu sais, moi, je suis dans le 4-5 étoiles, mais je peux comprendre quelqu'un qui serait comme hey, « une étoile, c'est nul à chier », ça, je crois pas ça, là.
Non.
À part, vous êtes vraiment trompé de salle quand vous êtes entré, là, mais...
Je pense que le public qui aime ce genre de film-là vont beaucoup aimer.
Oui.
Je te rejoins où il y a eu beaucoup de critiques très dithyrambiques. Des fois, ce genre de film, la critique, les... ils aiment ça en... encensé.
Ouais, c'est ça. Puis là, on sort les extraits, là, j'en envoyais sur le poster. Ouais, là, c'est comme redéfinit le cinéma, c'est puis ça. Tout. Je suis comme, ouais, il faut faire attention.
C'est pas un chef-d'œuvre. Mediafilm l'ont mis remarquable. J'irais même pas jusque-là, mais c'est un très bon film. Tu l'as dit, toutes les qualités au niveau de la mise en scène, la réalisation est super intéressante. Les comédiennes sont très bonnes, le duo.
C'est des personnages qui ont beaucoup de profondeur.
Oui, oui, oui. Puis. Tellement joué avec aisance. Moi aussi, j'étais en amour avec Renate. Elle est fascinante à voir, mais celle qui joue sa sœur aussi.
Oui,
elle est super bonne. J'avais Inga Hibdotter Lelias, pardonnez mon norvégien, mais qui se complète très bien l'une et l'autre. Elle Fanning aussi, très solide. Puis ce qui est intéressant dans le récit, c'est qu'il change souvent de point de vue aussi. Fait qu'on se promène d'un personnage à l'autre. Mm-hmm. Fait qu'au niveau de la narration, c'est toujours captivant.
Ouais, il y a du rythme, là. C'est pas, des fois,
c'est pas un long deux heures et quart.
C'est ça, plus de deux heures. Il y en a qui font ah, voyons, les films sont toujours trop longs. Mais s'il fait bien, il remplit bien, il n'y a pas de problème. Je pense que Wicked aussi remplit bien son 2h20. Ben, lui aussi, tu sais.
Ouais.
Une des scènes, quand même, dans le début, je ne sais plus, elle est actrice de théâtre. Là, ça se prépare à faire une grosse pièce. Puis là, elle a vraiment une espèce de crise de panique, là.
Ouais.
Super hot, cette scène-là. Là, on ne sait vraiment pas comment ça va finir. Je ne vous le gâche pas, mais ça dure quasiment 5-10 minutes qu'elle court partout, qu'elle ne veut pas rentrer sur scène, que tout le monde est comme « Là, si elle se sauve, on est vraiment dans la marde. »
Ouais, tout à l'heure, c'était... Ça met le ton dès le départ. Fait que, bref, vraiment un film donc, très intelligent. Encore là, Joachim Trier qui se révèle comme une nouvelle voix du cinéma contemporain. Là, parce que en quelques films, il a réussi vraiment à s'établir. Comme j'avais dit d'entrée de jeu, j'ai pas vu ses précédents films avant The Worst Person in the World, mais à un moment donné, je vais m'y mettre là, parce que je suis trop curieux de voir qu'est-ce qu'il a fait comme produit. Puis en plus, il met très en valeur la ville d'Oslo. Puis fait que c'est sûr que moi, ça m'intéresse parce que j'y étais.
Et oui, voilà.
Alors,
mais t'as reconnu.
C'est ça,
sinon, dans le rôle de la ville n'a pas tant d'importance. Puis comme si on est dans une vieille maison, puis on comprend juste un petit peu plus en banlieue. T'sais, la ville est moins au cœur du film que les précédents. Fait qu'à un moment donné, il y a un gros plan sur le théâtre. Puis là, t'as reconnu
le lieu.
Le centre-ville.
Ouais.
Il nous reste deux films majeurs, mais t'en as vu un, j'ai vu l'autre. Fait que veux-tu...
Ben, restons dans la saveur internationale. Je vais y aller avec trois amis et tu finiras avec Rental Family.
Parfait.
Alors, je te laisse aller. Trois amis de Emmanuel Mouret.
Emmanuel Mouret, qui est un habitué des comédie dramatique, dramédie d'amourette, d'amour et de tromperie. Là,
D'adultère.
D'adultère, merci. Alors ici, Joanne n'est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Alice, sa meilleure amie, la rassure. Elle-même, elle n'éprouve plus de passion pour Eric, donc deux amis de couple que les filles s'entendent pas bien avec leur chum ou... pas tant, mais que son couple se porte à merveille quand même si ils n'ont plus de sexualité. Mais elle ignore que lui a une liaison avec Rebecca, leur autre amie commune. Alors, les maris pas fins couchent avec les amis des autres, ou l'un des deux du moins. Mais ce qui va arriver, c'est que quand Johan va finalement quitter Victor, parce que sans malhonnête de plus être amoureuse d'être avec lui, mais celui-ci va, disons, disparaître et la vie des trois amis et leurs histoires vont s'entremêler, se retrouver bouleversés à jamais. Donc, c'est ça. Trois amis, deux en couple, une célibataire, une qui couche avec le chum de l'autre, une qui est plus en amour avec son chum, exact. Qui le laisse, qui là, ça vient tout bouleverser. Ouais. Qui était déjà un déséquilibre, mais ça vient déséquilibrer le déséquilibre, kicker le tabouret.
On est dans le film choral, drame sentimental par moment, quand même un peu d'humour à travers ça. Fait que malgré la lourdeur de la prémisse, c'est très léger dans le ton.
Fait que, c'est ça.
Oui, oui. Fait que, moi, je dirais que ça fait penser à du Woody Allen dans ses bonnes années.
Okay.
C'est très jaseux, très bavard, mais très lumineux, très belle direction photo, utilisation de musique classique. Fait que tout ça... d'ailleurs, il mourait, s'en cache pas. J'avais lu qu'il s'était inspiré beaucoup du film Alice de 1990 de Woody Allen.
Ah, je connais.
D'ailleurs, le personnage de Camille Cotin s'appelle Alice. Alors, ben, il a le petit clin d'œil.
Le dire que Camille Cotin, India Eyre, Sarah Forestier, fait que des
forme le trio
des trois amis.
Oui.
Vincent Macaigne, qui est celui qui joue Victor, comment je pense?
Je peux pas te situer.
En tout cas,
je connaissais moins les hommes.
Ah, OK. Ben, McCain, il était aussi dans L'Avenue de l'Avenir. Là. C'est lui qui a toujours l'air un peu perdu. Là. Les cheveux longs, bruns.
Ouais, 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 c'est ça, oui. Tout à fait.
Puis il est dans, il a été dans les deux autres derniers de Mouret, là, c'est comme l'habitué. Damien Bonnard aussi, qui est un cinéaste français bien établi et tout. Fait que c'est... Il profite pas de ce film pour faire découvrir de nouveaux talents. Il prend des vedettes bien établies, talentueuses et appréciées.
Et c'est bien rendu parce que le trio de comédiennes sont tous fantastiques, honnêtement. Donc oui, fait que vous aimez le bon cinéma français, classique, relations de couple... quand même des bons petits twists aussi dans le scénario. Fait que,
il y a ça toujours un bon succès, les Mourets, là, en général, ici. Fait que je pense que ça en est vraiment un des bons. Les premières critiques que je voyais sortir, là, on est le vendredi 21 novembre, sont assez dithyrambiques. Là, je joue du 8 sur 10 et plus. Fait que, c'est un peu comme disait Woody Allen est un bon comparable au sens où Mourets, je sais pas, là, mais c'est comme son 10-15e film. Là, il en fait vraiment beaucoup. Là. Fait que... je pense que c'est une bonne cuvée. Là. C'est un de ses bons. Exact. Alors, rattrapez-vous aussi, peut-être. Je sais pas.
Bah, oui,
parce que tu sais, il avait fait Mademoiselle de Jonquière il y a quelques années qui avait eu un bon succès aussi. Chronique d'une liaison passagère, ça, c'est le dernier. Comme 2022, ben, ça a été plus modeste vu le 2022. Tout était plus modeste à ce moment-là.
C'est peut-être un petit peu plus aride de ce que je me souviens.
Oui, c'était Sandrine Kiberlain. Sandrine Kiberlain puis Vincent McCain, c'est ça.
Alors qu'ici, on est dans le très, très accessible. Puis comme je dis, on passe un bon moment malgré le sérieux du sujet. Le traitement est vraiment intéressant. Fait que voilà pour trois amis.
Super. Et famille à louer, Rental Family de Ikari avec Brendan Fraser au Japon. Brendan joue le rôle de Philippe, qui est un acteur américain qui vit à Tokyo depuis 7 ans à peu près et qui enchaîne les petits boulots alimentaires. Fait que, il n'est pas le leader d'une grande série, il fait des castings à gauche puis à droite, des publicités, il devient un peu le American Token, le White Token, l'Américain de service dans des productions, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il se fait approcher pour une entreprise qui s'appelle Rental Family, dans le fond. Donc eux, ils se spécialisent dans... des demandes un peu saugrenues pour engager quelqu'un pour qu'il joue un rôle, mais pas dans une production télévisuelle, mais devant genre ta famille, tes membres. T'as créé un mensonge, un peu alibi.com, comme tu disais, là, de Philippe Lachaud. Là, de comme, ben regarde, je vais vous dire, là, ceux qui se fait ramasser, il y a la fille d'un ancien comédien, là, acteur très connu au Japon, puis son père commence à se sentir oublié et tout parce qu'il a genre 80 ans et plus. Fait qu'elle engage pour qu'il se fasse passer pour un journaliste américain qui va écrire genre un gros papier sur lui juste pour dire « Ben gars, viens puis jase-y pendant des heures puis ça va lui faire du bien puis il lira jamais ton papier, c'est pas grave. » Une autre affaire, c'est il y a une petite fille que dans le fond... La mère a eu un enfant avec un Américain, fait que la fille est nippo-américaine. Sauf qu'elle a besoin d'une présence paternelle pour l'aider à rentrer dans une école privée, là, très, très spécialisée. Sauf qu'elle dit « Je veux pas que ma fille soit dans le subterfuge. » Fait qu'il faut que tu fasses à croire à ma fille que t'es
son père
pour qu'on fasse à croire aussi lors de l'audition, de l'entrevue, que t'es son père. Sauf que là, lui, en bon Américain, le cœur sur la main, là, il va se laisser prendre à ce jeu-là des émotions, puis ça va être plus dur d'en sortir. Puis avec le petit bureau qui sont, le petit Rental Family, on va voir aussi les activités des autres. Il y a beaucoup d'affaires d'adultère aussi, mais eux, ils font pas des services sexuels, mais que tu t'oses pas... Je sais pas, tu veux présenter quelqu'un à ta femme pour t'oses pas la laisser, fait que tu fais à croire que c'est... ta maîtresse, fait que comme ça te fait une forme de chantage qui est terrible, mais en tout cas. Fait qu'il y a un peu ces notions-là de moralité qui vont venir là-dedans. Ikari, qui a, entre autres, réalisé l'excellente série Beef sur Netflix, qui est plus amère quand même, là, plus de comédie noire. Ici, c'est vraiment un drame lumineux, là, je l'ai dit, pour valeur sentimentale, ça l'est encore plus ici. T'sais, vous vous doutez que ça finit bien, que tout peut pas bien fonctionner, mais que tu vas sortir. Moi, j'ai eu la larme à l'œil à certaines occasions. C'est sûr que, comme je dis, la paternité a ouvert une valve en moi, fait que les relations avec la petite fille, avec ces affaires-là, on comprend que lui aussi, c'est un homme esselé. C'est un film qui met en lumière tout ça, le côté tu parlais des Norvégiens qui sont plus fermés puis qui ont cachent plus les émotions, ben, oui, les Japonais le sont aussi. Fait que c'est pour ça que je pense qu'elle, qui a le pied des deux côtés, peut se permettre de traiter de ça puis de le mettre en scène d'une belle façon. Quand il est tout seul à manger ses petits sushis dans son appartement, puis dans le fond, au lieu de regarder la télé, il regarde par la fenêtre puis il voit comme tous les appartements ouverts, puis un peu comme si tu zappais, là, un couple avec un nouveau bébé, un autre monsieur seul, là, un couple qui se chicane, puis check ça. Fait que c'est super beau comment c'est créé. Puis là, lui, il essaie de s'ouvrir un peu à ses nouveaux amis, à ce nouveau monde-là. Fait que ça va être un peu chamboulé. Fait que c'est très bien. Honnêtement, j'étais curieux de le voir parce que je me demandais si ça serait de la vidange.
Mm-hmm.
Puis genre, juste une espèce d'affaire boboche, super quétaine. Puis c'est pas ça. C'est quand même, comme on dit, cousu de fil blanc. Tu peux le voir venir, ça va pas te chavirer comme... Wow, quel twist incroyable. Il n'y a pas ça dans le film. Mais c'est super beau, très émotif. Vraiment une belle vue. Par contre, peut-être que je vous apprends que ça existe parce qu'il n'y a pas
ouais,
de...
Ouais, c'est arrivé en catimini un peu. Sur
ouais, c'est ça. C'est parce que c'est ce qui arrive. C'est que ça, c'est un Searchlight Pictures. C'est eux qui ont racheté le film. Je pense pas que c'est eux qui l'ont produit à la base. Puis c'est eux qui le distribuent. Mais quand ils font pas de version française, puis seulement de version sous-titrée en français, ben on le sent quand même beaucoup dans la promotion qu'il y en a beaucoup moins.
T'sais. Ouais.
Fait que c'est pour ça. Fait que je sais pas, ils jouent sur combien d'écrans. Là. Il doit y avoir quelques cinéplex dans l'aventure, puis les cinémas plus niché, là, genre la Maison du cinéma à Sherbrooke, le Clap à Québec, peut-être à Trois-Rivières, au Tapis Rouge, j'ai pas tout vérifié, mais ceux qui jouent le cinéma un peu parallèle, plus international finalement, mais qui arrivent par Disney, mm-hmm. alors qu'un Valeur sentimentale arrive par Entraque Film, par Nien, par d'autres affaires, là, fait que, ouais. c'est un Searchlight. Mais c'est une production américaine, en fond, c'est pas une production japonaise. Seul autre défaut, je vais vous donner quand même sur le film pour vous préparer, moi ça m'a gossé, dans cette même ordre d'idée de un petit peu moins de budget dans la mise en marché ou de soins, c'est que dans la vie, sur les sous-titres, il y a deux choses, ils peuvent être incrustés ou ajoutés. Fait que mettons, t'as « On sera heureux » de Léopold.
Mm-hmm.
Il y a des moments où ça parle des langues étrangères, ben là tu vas recevoir le film avec aucun sous-titre, puis tu as une copie sous-titrée français, puis une copie sous-titrée anglais. Mettons que ben, pour tout le marché canadien et tout, mais ouais. Nous au Québec on la joue pas ben là, peut-être Cinéma du Parc ou je sais pas, à Montréal peut-être quelques cinémas, là, mais sinon... Sauf que là, fait que t'as comme une copie qui a pas de sous-titres puis des copies qui ont certains sous-titres. Parce que ça marche pas tout à fait comme un Blu-ray ou un Netflix que comme t'as pas toutes les options. Là. Tu peux pas avoir sous-titres espagnol si le distributeur a pas fait faire une copie qui a mis des visas dessus puis qui est approuvée puis qui a le droit de jouer en salle, puis etc. Sauf que là, les sous-titres en anglais du film, parce que quand ils parlent en japonais, sont incrustés dessus. Fait que quand ils parlent en anglais, t'as des sous-titres français. Quand ils parlent en japonais, t'as des sous-titres anglais, puis par-dessus, t'as des sous-titres français.
Ah ouais, quand
ça commence à prendre la place dans l'image. Fait que c'est pas un bug de votre cinéma, c'est probablement que la copie sur laquelle ils ont ajouté, il y avait déjà, c'est collé dans l'image, le projectionniste peut pas l'enlever, il y a rien à faire. Petit faux pas ici, là, je trouve, mais bon, soyez avisés, c'est ça. Mm. Ça t'sais, j'étais habitué à lire des films avec sous-titres. On a vu Valeurs sentimentales, des choses comme ça. C'est juste que ça devient un petit peu plus dense ouais, sur l'image. Puis là,
attention.
C'est pas tout le film. C'est chaque fois qu'il parle japonais, des fois, il parle en anglais. T'sais, souvent, Brendan Fraser, il va comme... Les gens vont y parler en japonais, vu que ça fait plusieurs années qu'il est là, mais lui, il va répondre en anglais comme quelqu'un qui comprend bien, mais ouais, pas trop le prononcer. C'est plus tough, là, etc., là. Fait que voilà, c'est ça pour ça. Mais j'ai vraiment bien apprécié mon visionnement. Ça m'a. J'étais parfait accompagné d'un popcorn et d'une boîte de mouchoirs. Ou non, voilà. Je me suis juste essuyé dans ma manche en relevant mes lunettes. Ah, la paternité et les petites filles avec des lulus. Autre sortie plus nichée, Amélie et la métaphysique des tubes du duo Maëlys Valade et Lian Cho Han Jin Kwang. C'est d'après le roman d'Amélie Nothomb, paru au début des années 2000, qui raconte sa jeunesse au Japon. Hey, on est là-dedans. Parce que son père est un diplomate belge, sa mère est pianiste belge aussi, fait que à ce moment-là, il était au Japon, est né là. C'est un film d'animation très coloré, très charmant, d'à peu près 75 minutes, donc une heure et quart, très bref, qui raconte vraiment cette jeunesse-là. Avec une voix qui rappelle un petit peu de quoi je me mêle. Là.
Oui,
« Look who's talking », que les bébés parlent, mais les adultes ne les comprennent pas. Au début, elle est comme ça. Elle se parle dans sa tête. Elle nous fait comme la narration. Puis elle comprend comme crime, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de m'éveiller. Puis à peu près à 3 ans, il pense quasiment qu'elle est légume. À 2-3 ans, elle s'ouvre, puis là, poum, là, elle devient une boule d'énergie. Puis c'est au contact de sa grand-mère et aussi d'une employée, là, une femme de ménage, une jeune femme de ménage, Nishio-san, parce qu'ils louent leur maison, puis tout, que ça vient avec des affaires, qui veulent l'ouvrir aux beautés de la vie, à l'émerveillement, à la nature. Fait que c'est comme un film pour adultes et pour enfants à la fois. Vous voyez le genre, peut-être, là, tu sais, très philosophique. Dans son approche, dans ses questions sur la vie, mais qui est aussi rieur. Puis,
est-ce que ça peut être comparé à Olafrida qu'on avait eu?
Ouais, quand même à Olafrida. Puis je dirais peut-être un petit peu moins l'aventure jeunesse. Tu sais, même des. Tu sais, les. Voyons, Miyazaki, mais les plus doux, là, genre Totoro, là, pas le dernier Garçon et le Héron, là, qui était plus trash là, dans le monde des rêves avec du monde mort, puis tout, là, qui peuvent être. Qui était même général déconseillé aux jeunes enfants. Là, je pense juste que si vous amenez vos enfants de 4 ans juste parce que le film est court, ils vont trouver ça peut-être un peu dull là, parce que ça parle quand même pas mal. Mais un genre de 8 ans qui est éveillé à des choses différentes. T'sais, c'est pas comme Flo là, qui était genre « Ah, on va voir du cinéma fait international, mais c'est comme pas de langage puis des animaux, puis c'est ça, cute. » Ça se prenait à n'importe quel âge. Mm-hmm. Amélie, je dirais que c'est quand même un film de dialogue, mettons, plus que de drôlerie, là, tu sais. Mais c'est très, très bon. Je recommande. Je crois pas qu'il y ait dans beaucoup, beaucoup de cinéma, mais gardez l'œil ouvert, ça sort partout. Pour les fans d'action, Sisu Road to Revenge, qui est la suite du premier Sisu de genre 2022, qui est un ex-héros de guerre finlandais, on est très scandinave cette semaine, qui tente de refaire sa vie, mais va être à nouveau poursuivi par l'impitoyable soldat russe qui avait décimé sa famille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un mélange entre genre Mad Max puis John Wick, puis avec des shots à la Tarantino. Là, c'est de l'ultra-violence. Bing-bang. Je pense que c'est assez court comme film, là, genre des 1h30, 1h40. Sauf erreur, parce que j'ai pas vu le premier. Je pense qu'une des particularités, c'est que le personnage principal ne parle pas.
Okay.
Mais je suis pas certain de ça. Sans que ça soit gimmicky comme il y avait eu un film de Noël là, maintenant, avait vu avec l'autre Suédois, justement. Mais ça, c'était plus forcé qu'à un moment donné, les gens auraient dû parler. Ah, c'était juste lui qui parlait pas ou puis personne d'autre?
Ouais, c'était juste lui.
Juste lui, mais c'était un peu poussé. Mais en tout cas, là, je pense que c'est encore un peu la même chose, mais pas certain de ça. Sinon, ben on est le week-end aujourd'hui, 21 novembre, pré-Thanksgiving américain. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de films qui sortent mercredi le 26 novembre ou pour certains même mardi le 24, ouais, c'est ce que soir, d'habitude ça sort early le jeudi soir, ben là ça sort early le mardi. Connaissez-vous Zootopia? Eh bien, ils en font un deuxième chez Disney, ça sort donc mercredi. Du côté de Netflix, Wake Up Dead Man, donc le troisième Benoît Blanc, là, à couteau tiré, un Knives Out Mystery. Même chose, une petite fenêtre de deux semaines et demie à peu près, vu que ça sort un mercredi dans certains cinémas. Il y a juste à Montréal Eternity avec Miles Teller, Elizabeth Olsen et Callum Turner là, sur ce trio qui se retrouve un peu dans l'au-delà, dans les limbes et doivent choisir avec qui ils passeront l'éternité. Et elle est comme mon mari que j'ai vécu 40 ans ou mon premier amour mais qui est mort à la guerre. Fait que cette tergiversation romantique et comique. Et il y a Hamnet aussi, le très attendu en vue des Oscars avec Jesse Buckley et Paul Mescal, qui est comme sur la genèse de Shakespeare qui a écrit Hamlet quand son garçon Hamnet allait pas bien.
Fait que lui, il sort à Montréal.
À Montréal seulement le 26, mais ça, c'est une très drôle de sortie. Oui, mettons, dans le cas d'Eternity, l'expansion est juste une semaine plus tard, le 5 décembre. Dans le cas de... Hamnet, l'expansion est genre en janvier.
Et c'est ça.
Fait qu'il est comme un mois à Montréal puis Toronto, puis là, c'est pas clair encore, mais tu sais, 9-16 janvier, ça devrait ouvrir plus large. Je pense qu'ils veulent essayer de garder leurs écrans forts jusqu'aux Oscars, mais ils voulaient pas manquer cette fenêtre-là pour sortir. Fait que c'est une sortie là, plateforme, mais très, très longue. D'habitude, à chaque semaine, tu sais, d'habitude, en 2-3 semaines, c'est fait.
Exact.
Là, au plus 4. Là, ça va être comme en 6 semaines.
C'est drôle, ben ouais.
Fait que c'est ce qu'on fait du côté de Hamnet. Je pense qu'on veut éviter que tout le monde l'ouvre puis qu'après 3 semaines, il débarque. Mais on voulait vraiment le sortir avant les fêtes. Fait que ça donne ça. Il y a certains autres films aussi, on y reviendra dans les prochaines semaines, mais qui ouvrent à Montréal avant les fêtes, mais...
Nous autres en janvier.
Après les fêtes, là, c'est ça, toutes les régions, là, tout le reste, là, l'expansion. Fait que à suivre. Ben, c'est juste parce que en région, ça poliment, là, mais tout ce qui est hors Montréal, tous les cinémas sont un petit peu plus généralistes. À Montréal, ben, comme on dit, t'as le Duparc, t'as le musée, t'as le Beaubien, t'as le Moderne, t'as des cinéplex de 20 salles, fait qu'ils sont plus capables d'avoir un film qui joue à la limite dans une seule place, mais qui rassemble toute la ville. Si tu sais, à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, tu sais, tu peux pas avoir ça. Fait qu'il y a beaucoup de films que c'est pour ça qu'ils se rendent pas du tout à l'extérieur de Montréal, ou que s'ils arrivaient ici, ben ils prendraient complètement la place d'un écran pendant les fêtes. Ben là, tu vas pas mettre Zootopia dehors ou quoi que ce soit, parce qu'il y a, ouais, pas, il y a pas la place sur les écrans, ouais, tu sais. Avant les fêtes comme ça, il y a beaucoup de films. Tu sais, normalement, t'as une vie de cinéma de 4 semaines sur un film, mais là, c'est comme si tout freine, là, puis veut rester là, puis là, passer le temps des fêtes, là. Fait que tout ce qui sort à partir de là, la plupart ont une petite idée de « J'aimerais ça que
ben,
mon film soit là tout le temps. »
Miser sur les nominations aux Oscars, là. Mnet, c'est clair qu'ils,
ouais,
vont
c'est ça, oui,
qu'ils,
oui,
attendent juste ça, puis après ça, 10 nominations.
Mais c'est ça, tandis qu'un, pousser, mettons, Rental Family, ils s'attendent pas à ça, mais c'est, exact, sûr que si un cinéma dit hey, « Moi, je te le garderai pendant les fêtes », ils vont « Ben, c'est pas de problème, ça me fait plaisir. » Mm. Peut-être qu'ils s'attendent moins à ça, là, mais bon. Bref, fait que ça, c'était mon My Two Cents sur les sorties. Fait que la semaine prochaine, on n'aura pas le temps de voir tout ça, mais sûrement Zootopia et surtout Les Furies de Mélanie, ouais, Charbonneau, oui, qui sort le 28 novembre, qu'on a déjà vu.
Mm-hmm.
Et on va aussi discuter avec l'équipe, normalement. Très, très sympathique. Je vous encourage déjà à chaudement à y aller. Là, si, pas besoin d'attendre notre verdict là, pour acheter vos billets. Si vous aimez les comédies sportives, vous serez servi. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Je pense qu'il y a plein de cinémas là, que le récent magazine n'est plus.
Mm-hmm.
Il a été écoulé, il a trouvé preneur et des maisons et des voitures. Mais le nouveau s'en vient première
deux
semaine
semaines,
de décembre.
Près,
ouais. Dans deux semaines. Là, je pense qu'il passe, il est parti sous presse. Mm-hmm. Ça sera pas long, on s'en vient. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, bon cinéma, bon popcorn et n'attendez pas que votre père vous propose de jouer dans son nouveau film afin de faire la paix avec lui.